13h TU, 14h ici à Paris, vous écoutez Radio France Internationale et le journal de Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas Brousse, bonjour à tous. Dans l'actualité, la première tournée au Moyen-Orient du nouveau chef de la diplomatie américaine sur fond de trêve fragile entre Israël et le Hamas. Marco Rubio s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Dans un instant, Michel Paul en direct de Jérusalem. Dans l'est du Congo, les combattants du M23 appuyés par le Rwanda continuent leur avancée. L'Union africaine met en garde contre une balkanisation de la RDC. Fin ce dimanche de la conférence de Munich sur la sécurité. Elle aura été largement dominée par l'Ukraine. Quelle place pour l'Ukraine et ses alliés européens s'il y a des négociations de paix? À Paris, Emmanuel Macron réunira demain plusieurs dirigeants européens pour évoquer cette situation autour de l'Ukraine. Le secrétaire d'État Marco Rubio est à Jérusalem. Première visite d'un haut responsable de l'administration Trump en Israël. Michel Paul, bonjour, vous êtes en direct de Jérusalem.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Cette visite, Michel, est dominée par des entretiens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou au lendemain du sixième échange otages prisonniers. Et Michel Paul, vous avez assisté à des déclarations conjointes.
Oui, des déclarations fortes. Le président Trump et moi-même œuvrons en pleine coordination, proclame le Premier ministre israélien, notamment pour savoir quand les portes de l'enfer vont s'ouvrir pour le Hamas. Tous les otages doivent être libérés, souligne de son côté Marco Rubio. Le Hamas ne peut rester en tant qu'entité militaire ou politique. Il doit être éliminé. Le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État affirment tous deux que le problème le plus crucial au Proche-Orient est celui du nucléaire iranien. L'Iran est le facteur d'instabilité le plus prépondérant dans la région tout entière, dit encore Marco Rubio. Alors le secrétaire d'État américain a tenté de persuader ses interlocuteurs israéliens de relancer la négociation sur la seconde phase de l'accord signé avec le Hamas. De son côté, Israël, après une série de consultations sécuritaires, propose d'accélérer la phase 1 de l'accord pour récupérer au plus vite 6 otages toujours vivants. Benjamin Netanyahou indique qu'il va convoquer une réunion du cabinet de sécurité pour décider des prochaines étapes, une temporisation qui fragilise encore plus le cessez-le-feu. Ce matin, une frappe israélienne a fait 2 morts et plusieurs blessés à l'est de Rafah. Et puis, Marco Rubio n'est pas venu les mains vides. 1800 bombes MK-84 de près d'une tonne chacune sont arrivées en Israël la nuit dernière. Ce sont des munitions qui avaient été bloquées par l'administration Biden.
Michel Paul, en direct de Jérusalem, merci à vous. Dans une semaine se tiendront les élections législatives anticipées en Allemagne. À une semaine du scrutin, les conservateurs sont donnés largement favoris. À en croire les sondages, le chancelier sortant, le social-démocrate Olaf Scholz, ne sera pas reconduit. Sur le réseau X, ex-Twitter, Olaf Scholz rend hommage à Alexei Navalny, mort en prison il y a un an. Mort, je cite, parce qu'il s'est battu pour la démocratie et la liberté en Russie. À Moscou, plus d'un millier de partisans d'Alexei Navalny se sont accueillis sur sa tombe malgré le froid, malgré surtout le risque de poursuites judiciaires. Évoqué en public, l'opposant ou son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, expose les contrevenants à de lourdes sanctions. Fin ce dimanche de la conférence de Munich sur la sécurité. Elle aura été largement dominée par l'Ukraine. Quelle place pour l'Ukraine et ses alliés européens s'il y a des négociations de paix? Quant aux relations États-Unis-Europe, cette conférence de Munich pourrait bien marquer un tournant. Écoutez sur ce point Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales. Il enseigne à Sciences Po Paris.
Quand on voit ce que les États-Unis préparent en Ukraine, c'est-à-dire concrètement un abandon total du pays et de toute garantie de sécurité, on peut se poser la question si les États-Unis sont encore notre allié. Aujourd'hui, la position américaine est une position qui porte véritablement la guerre, parce qu'on sait que tout accord de paix avec Poutine dans les conditions présentes annoncerait une guerre future en Europe encore plus vaste, plus étendue et plus meurtrière. Donc aujourd'hui, c'est un vrai défi pour l'Europe. Est-ce que l'Europe va se tenir prête à agir en faveur de l'Ukraine et bien sûr en termes de renforcement de sa propre défense, et il faut aller vite et fort, si j'ose dire, Ou bien est-ce que l'Europe va à nouveau regarder passer les trains et ne pas être à la hauteur de la tâche historique qui l'attend?
Interrogé par Romain Lemaresquier, c'était Nicolas Tenzer, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique, livre paru aux éditions de l'Observatoire. L'Ukraine et ses alliés en Europe, il en sera question demain à Paris. Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, annonce qu'Emmanuel Macron réunira les principaux pays européens pour des discussions sur la sécurité européenne. L'Autriche s'est réveillée sous le choc au lendemain de l'attaque au couteau perpétrée hier dans le sud du pays par un demandeur d'asile syrien. Elle a coûté la vie à un adolescent et blessé 5 autres personnes. Âgé de 23 ans, le meurtrier présumé a été arrêté. Un islamiste présumé qui s'est radicalisé sur Internet a déclaré devant la presse le ministre autrichien de l'Intérieur.
Radio France Internationale.
14h05 ici à Paris, en RDC, le groupe M23 soutenu par l'armée rwandaise continue de son avancée au sud Kivu. Situation toujours incertaine dans la grande ville de Bukavu. Si des rebelles s'y trouvent, ils n'en revendiquent pas la prise de contrôle. Réunis en sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a mis en garde ce dimanche contre une balkanisation de la République démocratique du Congo, tout en appelant au retrait immédiat du M23 sans nommer le Rwanda. Un an après son arrivée au pouvoir, le président argentin au cœur d'un scandale, Javier Milei, a partagé sur X ce vendredi soir un message faisant la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, la Libra. Des milliers d'Argentins ont aussitôt investi dans cette monnaie. Or, les fondateurs de la Libra ont ensuite vendu leur part, empochant une fortune alors que le cours de cette monnaie s'effondrait. Rebecca Rondel, bonjour.
Bonjour.
Les économistes dénoncent une arnaque. Le président Milei lui assure qu'il ne connaissait pas les détails du projet.
Tout à fait. Quelques heures après la publication de ce post et ses répercussions, Javier Milei l'a supprimé et a affirmé dans un second message qu'il n'avait aucun lien avec cette entreprise. Une entreprise qui, elle, s'inspire fortement du président. Sur son site, elle reprend son slogan fétiche « Viva la Libertad » et lui rend hommage. Hier, dans un communiqué, Javier Milei a précisé qu'il avait participé à des réunions avec une entreprise connectée à Libra, mais pour lui, rien d'anormal. Il ajoute qu'il partage au quotidien sur ses réseaux sociaux les projets de beaucoup d'entreprises. Il a tout de même annoncé la saisine du bureau anticorruption pour identifier une conduite inappropriée au sein du gouvernement et de la présidence, et la création d'une unité d'investigation au sein de la présidence, ce qui a suscité de fortes réactions chez les internautes. Exemple, le président enquête sur lui-même, ça ressemble à une autre blague. Alors suite à ce scandale, plusieurs partis demandent la création d'une commission d'enquête, voire un procès. Le groupe péroniste Union pour la Patrie a annoncé qu'il lancerait lundi une procédure en vue d'une éventuelle destitution.
Rebecca Arondel du service économie, merci à vous. Bousculade tragique en Inde, au moins 18 personnes sont mortes dans une gare de New Delhi. C'était au départ de train à destination d'un pèlerinage hindou dans le nord de l'Inde. Le ministre chinois des Affaires étrangères se rend aujourd'hui en Irlande, reçu par son homologue et par le Premier ministre Mira Martin. En un an, c'est déjà la deuxième visite d'un haut responsable chinois en Irlande, petit pays de 5 millions d'habitants. En basket, un week-end de gala aux États-Unis. Les meilleurs joueurs de la planète sont réunis à San Francisco où la NBA, la fameuse Ligue nord-américaine, organise son All-Star Game. Cette année, la Ligue nord-américaine a décidé de changer de formule, Victor Misistrano.
L'an dernier, à Indianapolis, la soirée avait encore tourné à la parodie de basket. Une victoire de la conférence Est sur le score invraisemblable et record de 211 à 186. Aucune intensité, pas de défense, il y a urgence à réinventer un format qui n'intéresse plus grand monde. Sans enjeu, au milieu d'une saison éreintante de 82 matchs, les joueurs n'ont aucun intérêt à se fatiguer. Alors cette fois, ils seront séparés en 3 équipes de 8, en plus d'une équipe de jeunes espoirs. Un mini tournoi donc où le premier à 40 points gagne le match. Président des opérations de la NBA, Byron Sprell, espère un All-Star Game plus disputé.
Il faut être un peu plus innovant, créer un nouveau format. Les gars doivent vraiment l'adopter. Il faut être à leur écoute. Ils veulent un temps de jeu plus court et je pense que ce mini tournoi va le permettre.
Afin d'augmenter la motivation, un système de primes a été instauré. Chacun des vainqueurs touchera 125 000 dollars. Pour sa première participation, le français Victor Wembanyama figure dans une équipe très internationale. À ses côtés, entre autres, le Serbe Nikola Jokic, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander ou encore le Camerounais Pascal Siakam. De quoi espérer un beau bras de fer avec l'équipe de l'américain LeBron James. Pour sa part, Wemby ne compte pas faire de la figuration. Il a déjà prévenu, c'est un déplacement professionnel. Je n'ai aucune envie de m'y faire des amis.
Victor Missistrano, voilà, très bonne journée sur RFI. À tout à l'heure, 15h pour un nouveau journal. Tout de suite, l'émission Sinon à si proche.